France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Bienvenue dans Être et savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, laïcité en 2025, une affaire de génération.
La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine. De telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses.
Pas du tout.
C'est scandaleux ! C'est une honte !
Alors, Monsieur Guéraud, je ne comprends pas les interruptions de vos amis, pas plus que je ne m'explique davantage les paroles que vous prononciez au début de cette discussion quand vous disiez, vous prétendez accorder la liberté à l'Église et vous lui enlevez le budget des cultes. Mais Monsieur Guéraud, si l'Église ne peut se passer des subsides de l'État, c'est que l'Église est déjà morte.
Le 9 décembre 2025, l'Église n'est pas morte. On célébrera en France les 120 ans de la loi sur la séparation des Églises et de l'État. Et là, c'était Pierre Arditi qui jouait Aristide Briand en 2005 dans un téléfilm qui s'appelle « La séparation ». La laïcité, si importante à l'école, depuis un autre texte de loi, entre autres, hein, 2004, sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires, est sujet de débat. En France, l'adjectif laïque nous rappelle le site du Conseil constitutionnel est entré dans le langage via le droit. C'est un article, l'article 17 de la loi scolaire du 30 octobre 1886. L'article imposait que l'enseignement primaire soit exclusivement confié à un personnel non ecclésiastique. Donc avant la séparation des églises et de l'État, il y a eu la séparation de l'église et de l'école. La laïcité est un sujet quasi obsessionnel. Alors là, peut-être depuis 89, l'affaire du voile, de ceux dont je parle le plus, hein, pas depuis 1989. Avec la lecture aussi, c'est un autre sujet dont je parle beaucoup, mais la lecture, ça m'intéresse, alors que je trouve les débats sur la laïcité un peu répétitifs. On y reviendra avec l'historien Sébastien Ledoux. Pourtant, j'ai beaucoup appris, hein, sur le sujet au cours de ma vie d'adulte, et c'est une question de génération. Née sous Giscard, la laïcité ne m'a pas été beaucoup enseignée. J'ai grandi dans une relative indifférence aux religions, mais déjà baignée dans le mélange des origines et des croyances à l'école où la cantine ne servait pas de porc ou à de nombreux élèves. J'ai grandi en banlieue et sans polémique à l'époque. Autre temps, autre débat, je reviens en 2025, autre vision de la laïcité par les politiques. Alors là, c'est moins notre sujet, mais on va en parler aussi. Et par la jeunesse. Les différences, parfois subtiles, sont analysées de manière très fine et très très documentée par Philippe Portier et Charles Mercier dans leur ouvrage « Les jeunes et leur laïcité, laïcité au singulier ». Bien entendu, Philippe Portier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, professeur à Sciences Po, directeur avec Alain Dikoff de l'Observatoire international du religieux, ancien directeur du groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS, et votre livre vient de paraître aux presses de Sciences Po. Il s'appuie sur une grande enquête de 2023, mais aussi plein d'autres travaux, un peu plus anciens, des années 2000 et même avant. Il est très agréable à lire, enfin j'ai un peu zappé quelques tableaux, parce que c'est très 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 documenté, mais vous y reviendrez sûrement en détail. Et ma première question, c'est la laïcité apparaît finalement comme un principe très consensuel, même chez les jeunes.
Elle apparaît comme un principe très consensuel, surtout chez les jeunes. Il y a bien sûr des différences entre les jeunesses, mais globalement, les jeunesses sont en convergence pour estimer que la laïcité est un principe tout à la fois fondateur de notre République et fondateur aussi de notre culture hexagonale, de notre culture française. C'est donc de ce point de vue un élément tout à fait important de ce qui nous conduit à vivre ensemble, à faire société dans le monde contemporain. J'ajoute juste un point en vous disant que on pourrait d'une certaine manière considérer que c'est un vocable creux, un concept qui est élastique, qui pourrait supporter de multiples significations. Chez les jeunes, il y a une convergence aussi sur le contenu de la laïcité, en l'indexant tout à la fois au principe de liberté, au principe d'égalité.
Des jeunesses, une laïcité.
Des jeunesses, une laïcité avec une convergence autour de ce que je viens de dire. La laïcité, c'est un principe de la République assis sur les notions de liberté et d'égalité.
Et ça, la liberté et l'égalité, Ils y tiennent, les jeunes que vous avez interrogés, dont vous analysez la pensée, les propos, les enquêtes se recoupent. On va y revenir, on va également revenir à ce que l'école a fourni hein, comme travail sur cette question, évidemment. Karine Hendrix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de L'École des parents, une revue trimestrielle sur la parentalité, coéditée par la Fédération nationale des écoles des parents, une revue très très ancienne. Hein,
car... Et des éducateurs.
Et des éducateurs, oui, c'est important de le dire, la FNEP. Et donc, vous avez, je ne sais pas si vous aviez déjà d'ailleurs consacré des dossiers à la laïcité, mais le titre m'a énormément interloqué. En demande-t-on trop à l'école ?
Oui, effectivement, c'est le sujet du dossier
mais
qu'on
qui,
a choisi.
Alors, on, ce serait qui ? Ce serait la société par rapport à l'école, trop par rapport à quoi ?
Alors, ben, c'est par rapport à la société, par rapport aux parents, effectivement, c'est assez large. En fait, nous, on est partis plutôt de cette idée qu'on entend largement dans le débat public, que l'école serait menacée et serait menacée par cette montée du fait religieux. Donc on a voulu aller interroger ce sentiment. Est-ce qu'il y a des éléments concrets ? Voilà notre point de départ. Et puis effectivement, on a choisi l'aspect un peu symbolique des 120 ans de la loi de 1905, même si, vous l'avez rappelé, c'était pas une loi directement sur l'école.
Non, mais sur laquelle on s'appuie beaucoup, c'est le point d'entrée aussi pour parler de la laïcité souvent à l'école, parce que elle donne beaucoup de recul. En plus, c'est une loi, un moment de l'histoire évidemment où le débat était très différent. On parlait beaucoup de l'Église. Ça, c'est très lointain par rapport à maintenant, et en même temps très très pertinent. Je conseille hein, d'ailleurs le téléfilm dont on a entendu l'extrait, La Séparation. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sébastien Ledoux, en tant qu'historien, si vous le connaissez.
Je ne le connais pas.
Ah, regardez-le, il est bien, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'un historien. Je reviens au dossier de l'école des parents. Il est très pluraliste, très équilibré. Vous savez, en ce moment, dans l'audiovisuel public, on aime bien ce mot de pluralisme. Quelles idées vous aviez derrière la tête ? Quelles peut-être précautions vous aviez envie de prendre ? Enfin, comment vous l'avez fabriqué ? Avec quel sentiment ?
En fait, c'est vrai que dans le principe, l'école des parents, on essaye toujours d'avoir un regard pluraliste et pluridisciplinaire sur les sujets qu'on traite. Donc c'est vrai que là, on est allé chercher des historiens, des spécialistes du droit, des sciences de l'éducation, des sociologues et aussi des enseignants, des gens de terrain. Voilà, donc on a à la fois des gens qui travaillent sur les concepts, des gens de terrain, pour essayer de croiser un petit peu ces visions. Et puis dans l'école des parents, on a une autre particularité, c'est qu'on donne assez facilement la parole à des professionnels. Donc par exemple, on a un article qui a été rédigé par une spécialiste du droit public, Stéphanie Annette
Hyper Vauchin, intéressant. Hein.
Voilà, qui elle nous donne sa vision de l'évolution de la loi de 1905 à la loi de 2004. Comme on avait quand même à cœur d'aller écouter et d'analyser des avis divergents, eh bien, en contrepoint, on a été interviewé, par exemple, une autre juriste, Nathalie Wolf, qui intervient dans un regard croisé avec Philippe Portier, et qui, elle, a une idée davantage de continuité de la laïcité entre les deux lois.
Oui, et puis on a une bibliographie assez complète. On peut citer les ouvrages de Yanis Roder ou Samia Langar. Enfin, je ne vais pas reprendre toute la biblio. Mais voilà, on sent que des points de vue pas tout à fait concordants cohabitent. Alors, parmi les adultes, on va revenir aux jeunes dans un instant. Sébastien Ledoux, historien, je vous ai déjà un peu fait parler, mais je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Picardie, Jules Verne, co-auteur avec Ismaël Ferrat de l'ouvrage Une école sous le choc. On en avait déjà parlé ensemble. Le sous-titre, c'est Le Monde enseignant après l'assassinat de Samuel Paty. C'était publié au bord de l'eau en 2024. Vous avez publié une note toute récente, hein, Le Monde scolaire face aux attentats depuis 2015. Mais d'ailleurs, vous faites le lien un peu entre, et vous allez nous expliquer pourquoi, entre la manière dont la société, et pas seulement l'école, s'est emparée du sujet laïcité et les attentats et l'assassinat de Samuel Paty. Parce que, évidemment, il y a une question religieuse au cœur des attentats, mais est-ce que ça remet en cause l'enseignement de la laïcité à l'école ? Et pourtant, on en a beaucoup parlé à chaque fois.
Alors, Je vais faire plusieurs réponses, si c'est possible.
Prenez votre temps.
À la fois, il y a un lien parce que les actes terroristes de 2015, donc moi j'ai étudié janvier et novembre, et ensuite l'assassinat de Samuel Paty, sont des actes qui sont commis au nom d'une religion. Donc il y a en fait un acte qui cherche une mobilisation des opinions. Et donc, évidemment, comme c'est déposé comme cela, hein, la revendication, elle est extrêmement claire, explicite à chaque fois, pour défendre la communauté musulmane, pour défendre l'islam, hein, donc c'est à ce titre-là, ça implique des positionnements. Et j'ai étudié le monde scolaire, plutôt les mondes scolaires, et on va retrouver effectivement des positionnements très différents au sein du monde scolaire, à la fois chez les enseignants, à la fois chez les élèves, etc., etc. Mais, donc ça c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que on a eu tendance, et quand je dis « on », il faut préciser évidemment, l'institution scolaire, le ministère de l'Éducation nationale, donc j'ai fait aussi mon enquête auprès du cabinet ministériel à cette époque-là, retraduit ces attentats comme un problème de laïcité. En tout cas, comme une question de laïcité.
C'était ça, ma question.
Voilà, mais oui, mais j'y viens. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est sur une politique, ce qu'on appelle une politique publique, qui est sur la laïcité, qui est menée depuis plusieurs années. On est sur ce que Ismaël Ferhat a appelé la pédagogisation de la laïcité. La politique publique, c'est notamment avec Vincent Peillon, la charte de la laïcité, l'instauration de la journée de la laïcité, etc., etc. Donc, quand les attentats de janvier 2015 surviennent, l'éducation nationale, en termes ministériels, hein, j'entends, et en termes de politique publique, est déjà ancrée, finalement, dans une politique liée à la laïcité. Et donc, c'est le cadre interprétatif, pour eux, de cet acte violent qui est commis au nom d'une religion. Je veux dire, c'est pas non plus complètement déconnecté, mais en tout cas, ils vont s'en saisir comme, effectivement, une question de laïcité, et notamment de la formation des enseignants. Hein, pour eux, ce qui est, quand je dis pour eux, c'est au niveau du cabinet ministériel, finalement, ce qui émerge, c'est un manque de formation des enseignants sur la question de la laïcité. Et puis après, il y a une inflexion, on y reviendra peut-être plus tard avec les atteintes à la laïcité, il y a aussi une inflexion en 2017 de cette politique, hein, bien sûr.
En 2017, après, ça dépend aussi des ministres.
Voilà.
Et donc, vous faisiez référence à Jean-Michel Blanquer. Et aussi, mais on va y revenir, ce qui s'est passé dans une histoire plus récente, parce que vous aviez parlé des différences de vision hein, de la laïcité, donc on le rappelle, c'est un principe. En même temps, on a dit au début de l'émission qu'il y avait quand même un consensus, donc on va examiner cette petite contradiction. Est-ce qu'il y a des différences de génération, ça pourrait exister, entre les profs et les élèves, et même parmi les enseignants, ça a été dit hein, parfois, entre des enseignants qui ont une vision assez différente de la manière de voir et traiter, par exemple, les incidents relatifs à la laïcité, pour peu qu'il y ait des incidents, mais aujourd'hui, on les relève hein, dans les établissements. Je reviens vers vous, Philippe Portier, avec une citation, je ne sais pas si elle est complètement exacte, Karine Hendricks, vous me corrigerez hein, si je me trompe. Donc, c'est dans le dossier de l'école des parents. Ma fille me traite de réac parce que je dis que le voile est un symbole de domination, dit une mère interrogée dans ce dossier. Et c'est vrai que pour les jeunes, les signes, on dit ostentatoires, je ne sais pas, enfin des signes religieux tout simplement, vestimentaires, ne sont absolument pas un problème. Et ils sont très nombreux à vous répondre, quelle que soit la manière dont ils se situent sur l'échiquier politique, que, en fait, pour eux, c'est OK, les signes. Comment vous interprétez ? Enfin déjà, décrivez-nous ce que vous avez compris et entendu et comment vous l'interprétez.
Alors, c'est une question qui a fait débat en France. Vous évoquiez tout à l'heure le retour de la question laïque. Le retour de la question laïque, il s'affirme au début des années 1990, essentiellement après l'affaire du voile de Creil en 1989. Auparavant, sur les 30 ou 40 années qui précèdent, la question laïque ne fait pas réellement problème. Elle est liée à un objet partiel, qui est la querelle scolaire, mais la question du lien social envisagé à partir de la laïcité n'est plus alors au cœur de nos préoccupations collectives. Le débat public s'organise autour d'autres objets, l'objet européen, la question sociale en particulier, la possibilité du communisme, nous dit Alain Badiou. Il faut attendre, en effet, la fin des années 80, le début des années 90, pour que cette laïcité d'évidence devienne de nouveau une laïcité de conflictualité. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que nous nous trouvons confrontés à des affirmations identitaires dans le champ social, des affirmations identitaires portées en particulier par des éléments de relevant de la communauté musulmane et se prévalant de leur propre appartenance. Alors, les jeunes ont été confrontés à cela, comme d'ailleurs la classe politique. La classe politique, dès les années 1990, prend la parole en disant « Vraiment, il faut que les signes religieux soient bannis, non seulement de la fonction publique, ce qui était le cas jusqu'alors, mais aussi de l'école publique. » Et toute une série de propositions, de lois, sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. Il y a de surcroît des commissions parlementaires qui se réunissent et qui toutes concluent à l'idée qu'il faut bannir le voile de l'école. Alors, le problème est de savoir comment les élèves, aujourd'hui, reçoivent cette interdiction. La population globale est massivement d'accord avec l'interdiction. Pour ce qui concerne la population des jeunes, celle que nous avons étudiée, 18-30 ans, on n'est pas du tout dans ce système-là. Et l'on voit que une très grande proportion de jeunes refusent ces lois de restriction. Ils estiment même qu'il faudrait pouvoir autoriser les signes religieux pour les fonctionnaires dans l'exercice même de leurs fonctions. Ce qui est totalement en contradiction avec la loi sur la neutralité de l'État dans notre système laïque. Alors, on s'interrogera peut-être tout à l'heure sur le point de savoir si on a affaire à des jeunes multiculturalistes qui accepteraient le séparatisme. Je donne tout de suite la réponse, c'est non. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que cette acceptation des signes religieux est massive chez eux, est liée de manière tout à fait évidente dans les réponses que nous avons recueillies à cette idée qu'une société libérale doit accepter la liberté de comportement. Que l'un des droits fondamentaux des hommes et des femmes, c'est de pouvoir choisir, au fond, le port vestimentaire qu'ils jugent nécessaire à l'affirmation de leur propre identité. Et ils ajoutent, ces jeunes, dans une sorte de raisonnement philosophique, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs un certain nombre de recherches actuelles sur la constitution du lien social, que de permettre l'affirmation des signes religieux, c'est aussi permettre l'intégration de ceux qui le portent. Alors, c'est tout à fait en contradiction, là encore, avec ce que nous dit le débat public. Le débat public nous dit très souvent, mais porter un signe religieux, c'est d'une part, comme vous le disiez tout à l'heure, une façon d'aliéner davantage la femme encore.
Enfin, je citais quelqu'un.
Et c'est aussi, en tout cas, vous citiez cette personne. Je vais revenir sur la citation. Mmh. Et deuxièmement, c'est aussi une façon de séparer les citoyens les uns des autres. Avec cette idée que le signe serait nécessairement le facteur d'une séparation, d'un sécessionnisme, d'un communautarisme à l'intérieur de nos sociétés. Pour les jeunes, pas du tout. Il se trouve que le fait de porter des signes religieux, ça correspond au contraire à une possibilité pour ceux qui affichent ces signes de mieux s'intégrer dans la société. Alors c'est là un point tout à fait intéressant. Vous avez dit, dans la citation que vous nous avez rapportée, « Ma fille me traite de réac ». Et là, vous faites intervenir une différence entre les garçons et les filles. Et en effet, de manière un peu contre-intuitive, les filles ne ressentent pas du tout le port du voile comme un signe d'aliénation. De ce point de vue, elles partagent de manière très nette, davantage que les garçons, le choix de celles qui décident d'afficher leur appartenance à travers le port d'un voile, à travers l'affirmation d'un signe religieux. Il y a un gender gap dans nos sociétés, où les femmes, d'une certaine manière, les jeunes filles, se montrent plus tolérantes à l'égard de cette affirmation des signes que les garçons. Alors, il faudrait interroger cela, mais c'est une transformation assez radicale par rapport à ce qu'on savait de la division politique des deux sexes dans les années 1960-1970.
Oui, parce qu'on a souvent et longtemps dit que les femmes étaient plus conservatrice, d'une certaine manière, parce que là, pour le voile, ça rebat encore les cartes et peut-être les visions qu'on peut avoir de ce qui est conservateur ou moderne. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue autour du signe religieux. J'ai une question toute simple. Est-ce que les jeunes sont plus tolérants, et je mets plein de guillemets, hein, parce qu'ils sont jeunes, ou parce que c'est une autre génération et qu'ils vont le rester, par exemple, vis-à-vis des signes religieux?
Alors, il serait évidemment trop compliqué de reprendre les tableaux dont vous nous disiez tout à l'heure qu'ils étaient peut-être en effet parfois un peu complexes. En tout cas, les résultats le sont beaucoup moins. Ce qui nous apparaît au fil de cette enquête, c'est que ça n'est pas simplement un effet d'âge, le fait de partager les expériences de ceux qui portent des signes ou de celles qui portent des signes religieux à l'intérieur des établissements scolaires. Quand on prend la succession des cohortes depuis le début des années 2000 jusqu'en 2025, on voit bien qu'on a affaire à un effet de génération. Et que ceux qui étaient déjà ouverts à cette tolérance que vous décriviez à l'instant dans les années 2000-2010, le demeurent et parfois même accentuent encore cette ouverture dans les années 2020-2025. Donc nous sommes dans un monde, si vous voulez, où manifestement, suivant d'ailleurs un certain nombre de points qui sont aujourd'hui mis en évidence, il y a à la fois une tendance vers l'affirmation d'un rassemblement culturaliste autour d'une idée essentialiste de la nation, et vous avez en même temps des segments de la population qui estiment, et d'ailleurs sans véritable discontinuité lorsque ces générations avancent dans le temps, qui estiment qu'au contraire une société se construit à partir de l'acceptation des différences qui germent en son sein.
Karine Hendricks.
Oui, si je peux intervenir, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que dit Philippe Portier, c'est qu'on a retrouvé, nous, en faisant ce dossier, chez certains de nos interlocuteurs, l'idée que, en fait, la laïcité, c'est quelque chose qui est mal compris par les jeunes. Et qu'il suffirait de leur expliquer ce que c'est pour que, automatiquement, ils y adhèrent. Mais on voit que ce n'est pas forcément un problème de compréhension, mais un problème de conception. C'est-à-dire que, effectivement, ils ont leur vision de la laïcité qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait leur inculquer.
Parce qu'on leur inculque. Parce que, on l'a dit, c'est dans les programmes scolaires depuis fort longtemps. On peut se référer au programme de 2008, de 2015. En fait, même avant, hein, c'est rentré dans les années 2000, dans les programmes. Et alors, ça marche, comme beaucoup de programmes, de manière spiralaire. Hein. On commence dans les petites classes en parlant de liberté de croire ou de ne pas croire, pour après étudier l'histoire du concept. Sébastien Ledoux, avant de reparler de vos travaux, hein, plus précisément, comment vous analysez-vous ce fait? C'est-à-dire, on enseigne massivement, c'est tous les élèves hein, français, alors d'autant plus à l'école publique, un principe avec les notions qu'il recouvre, son histoire, avec comme idée qu'on va quand même bien inculquer des idées, parce que c'est porté par la classe politique, on l'a bien dit, hein, qui seraient les mêmes pour tout le monde. Et à la fin, on a des gens qui sont OK avec la laïcité, mais pas du tout de la manière dont le pensent les politiques, c'est-à-dire de manière peut-être plus ouverte. Et c'est la manière de voir les choses que je qualifie, et pas la laïcité qui ne se qualifie pas, c'est un principe.
Alors, il y a une tension, en fait, sur l'acception de la laïcité qui est beaucoup plus éclatante depuis quelques années, notamment, effectivement, depuis les années 90, avec l'affirmation d'une expression religieuse musulmane. Il y a des tensions par rapport à cette acception. Est-ce que on est sur un projet qui va valoriser, justement, la liberté et l'égalité? Ou est-ce qu'on est sur un projet, en termes presque philosophiques j'entends, qui va mettre à distance la religion dans une affirmation républicaine émancipatrice? Et en fait, déjà dans les années 1880-1890, c'était présent, ces débats étaient présents. Et en fait, ils reviennent depuis plusieurs années maintenant, enfin voilà, 89, c'est effectivement un jalon, ils reviennent en force. Et là, il y a un malentendu, effectivement, sur la compréhension de la laïcité, qui, pour les jeunes, sont plutôt synonymes d'une liberté individuelle et d'une égalité de traitement. Et c'est vrai que ces notions-là sont extrêmement, dans mon enquête, on le voit très bien, sont extrêmement, ils y adhèrent, non seulement ils y adhèrent, mais ils y attachent beaucoup d'importance. Mmh. Et on est du côté républicain. Je veux dire, entre liberté et égalité, on est bien sur des principes tout à fait
et
républicains.
Et fraternité, je pense aussi. Hein.
Et fraternité, oui, tout à fait.
Dans ce qu'on lit
mais
chez vous, hein, Philippe Portier.
Si, effectivement, c'est pour, et les questions régulièrement sont posées en ces termes-là, hein, de mise à distance du religieux, hein, en termes, est-ce que c'est un projet qui cherche à émanciper les individus de leurs convictions, ou leur, entre guillemets, de leurs conditions religieuses vers un dépassement et vers une utopie, je dirais, sans religion, alors là, effectivement, les jeunes n'y adhèrent plus. Donc, c'est aussi ça le malentendu qu'il y a depuis quelques années. Est-ce que les enseignants, et les enseignants sont très partagés sur cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que pour les enseignants, enseigner la laïcité, c'est les détacher finalement de leurs convictions religieuses, en gros, je vais le dire ça comme ça. Alors, si c'est ça, bah, oui, il y a beaucoup de questions à se poser, parce que les élèves ne le vivent absolument pas comme ça. Et donc, d'où une réaction négative des élèves à travers une conception de la laïcité qui serait, en gros, débarrassez-vous de vos convictions religieuses.
Parce que beaucoup d'enseignants, enfin de moins en moins, mais quand même, viennent du XXe siècle, et que c'est un siècle de sécularisation, voire de détachement du religieux. On a écouté une archive de, un extrait d'un téléfilm qui revient sur la loi de 1905, et c'est vraiment cette grande séparation et cette liberté aussi conquise par plein de Françaises et de Français vis-à-vis d'un certain ordre de la société.
Et qui est une évolution, qui est aussi une évolution. Hein.
J'avais pas prévu de poser cette question tout de suite, mais on va revenir à l'école, mais c'est un point hyper important, et je pense que les politiques n'ont pas vu. C'est une certaine forme de retour du religieux. Je viens à vous, Philippe Portier, c'est un chiffre qui m'a énormément amusé. Vous comparez deux enquêtes, une en 81, une en 2021. Croyez-vous à la vie après la mort? En 81, il y a 30% des jeunes qui disent oui, à peu près ça, 30-31. Et en 2021, c'est une écrasante majorité. Et c'est une petite chose, ça ne veut pas dire croyez-vous en Dieu. Enfin, c'est juste comme ça une question un peu marrante qu'on pourrait se poser entre amis. On fait souvent ça quand on est ado. Et je trouve ce chiffre extrêmement intéressant. On passe de 30 à pratiquement 80%. C'est toute une conception du monde qui a changé chez les jeunes aussi. Et ce retour du religieux, c'est pas seulement le respect pour les religions. Ça c'est très fort. Hein. Quand on n'en a pas, c'est des jeunes qui adhèrent aux croyances, à la religion, bien davantage que leurs aînés, que ma génération, par exemple.
Oui, ça, c'est une évolution assez typique de nos sociétés. On a beaucoup réfléchi en sociologie à partir d'un paradigme, à partir d'un principe explicatif de l'histoire, qui serait le principe de sécularisation. Cette idée que le religieux, à mesure qu'on avancerait dans l'histoire, ne ferait plus sens. Et en effet, toute une série d'indicateurs quantitatifs nous le montrait dans les années 1950, 1960, 1970. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, dans ces années-là, la laïcité est une laïcité d'évidence, elle ne fait plus réellement problème, parce qu'on sent que l'Église catholique est en train de perdre ses bastions, que non seulement elle perd ses bastions, mais qu'elle-même, d'une certaine manière, fait reddition devant les principes de la démocratie libérale. Il se trouve que cette façon d'envisager les choses à partir du paradigme de la sécularisation a été remise en cause au cours de ces dernières années. On parle même aujourd'hui de désécularisation. Alors moi, je préfère l'expression recomposition, parce qu'il ne s'agit pas d'un retour au passé. Les jeunes d'aujourd'hui, et j'en viens à votre question, les jeunes d'aujourd'hui ne manifestent pas une volonté de rejoindre les institutions du croire et de se soumettre à la dictée morale des magistères. Ils se créent leur propre récit spirituel, mais ils se créent ce récit spirituel avec une adhésion supérieure à celle des générations antérieures aujourd'hui dans la croyance en Dieu, et avec une adhésion aussi à un discours que les années 1960-1970 avaient mis sur le côté, qui est le discours des fins dernières. Que devenir après la mort? Est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'enfer existe? Et ce sont des éléments qui apparaissent comme étant très structurants d'une partie de la jeunesse. Alors cette jeunesse peut se dire sans religion. On leur demande est-ce que vous êtes juif, catholique, musulman ? Ils vont, dans une écrasante majorité, vous répondre non. Mais le fait de se déclarer sans religion ne veut pas dire militer en faveur d'un athéisme combatif. Il s'agit tout simplement de recomposer son propre récit à l'intérieur, en effet, d'un système qui se passe de l'institution, mais qui ne se passe pas pour autant de la croyance. Alors je prolonge juste en vous disant que cette affirmation du croire, tout à fait contre-intuitive au regard du fameux paradigme de la sécularisation qui nous a bercé dans les années 60-70.
Ah bah, même 80 et 90, on n'est pas tout à fait de la même génération, on peut se le dire, et je me sens complètement
bien sûr. Et quand
partie intégrante de ce que vous décrivez.
Et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure à partir de votre propre expérience, quand vous disiez, moi à l'école, j'ai jamais entendu parler au fond de la laïcité. Et on voit bien que la laïcité, elle réémerge à mesure que s'affirme des affirmations identitaires, celles dont nous parlions tout à l'heure, et qu'on voit à l'œuvre aussi chez ces jeunes. Alors, il y a plusieurs jeunesses. Il y a une jeunesse qui est très identitaire, qui rejoint en effet des mondes croyants, des mondes confessionnels. Et puis, il y a une jeunesse qui s'affirme comme étant sans religion, mais que, dans le même temps qu'elle s'affirme sans religion, réaffirme aussi un discours des fins dernières autour des éléments que vous évoquiez, le paradis, l'enfer, éventuellement le purgatoire. Est-ce que tout cela existe ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Est-ce que cette vie après la mort sera une vie d'un bonheur enfin réalisé ? Ça a beaucoup à voir, je le précise au passage, quitte à m'éloigner un peu de notre conversation, avec le fait que nos sociétés offrent au fond aujourd'hui très peu d'horizons d'avenir absolument joyeux, absolument ouverts, susceptibles de déterminer un épanouissement de la vie. Et les fins dernières, précisément, peuvent peut-être être une compensation à ce déficit de sens dont nos sociétés postmodernes sont aujourd'hui porteuses. J'ajoute un dernier point, parce que je ne voudrais pas occuper...
Parce que Karine Hendricks a beaucoup de choses à nous raconter.
Je ne voudrais pas occuper davantage le terrain, mais c'est très important d'avoir souligné cela, parce que dans notre enquête et peut-être dans l'enquête aussi de Sébastien Ledoux, plus on affirme une inscription religieuse, même si elle n'est pas marquée par une institutionnalisation du croire, par une revendication d'appartenance à une communauté confessionnelle, plus on est adhérent d'une laïcité qui serait une laïcité d'ouverture. Voyez cette idée précisément que la religiosité vécue par le sujet a un effet de halo sur sa propre conception du rapport au religieux dans la société. Plus je suis religieux, plus j'accepte d'être tolérant à l'égard des démonstrations de foi d'autrui.
Ça, c'est très postmoderne. C'est vraiment aujourd'hui, j'ai cité le nom de Samia Langar il y a un instant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle étudie chez les jeunes parents musulmans, par exemple, qui vivent leur foi de manière très individuelle. Bon, je fais référence à ses travaux, il y en a d'autres sur toutes les religions. Karine Hendricks, ce retour du religieux, je ne sais pas si j'aime bien cette expression ou pas. En tout cas, ça fait l'objet d'un article assez long, d'une enquête, dans le dossier de l'école des parents et des éducateurs.
Oui, tout à fait. Et juste pour rebondir par rapport à ce que disait Philippe Portier, un élément qu'on a noté aussi, c'est qu'au-delà de ces questions d'atteinte à la laïcité, en fait, on a senti, en tout cas chez certains enseignants, une surprise surtout par rapport à la façon, au rapport des jeunes avec la religion, et qui s'étend même aux non-croyants, qui finalement ont une susceptibilité ou partagent la susceptibilité des autres élèves par rapport à quelque chose qui peut être considéré comme attentatoire à leurs convictions religieuses.
Et quand on critique une religion, les élèves ou les enfants nous répondent « je suis choquée ». Et d'ailleurs, pas que les professeurs, les parents aussi.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui, là aussi, doit attirer l'attention. Et après, pour revenir par rapport à cet article sur le retour du religieux, en fait, je crois que Philippe Portier l'a très bien résumé, notre article. C'est vrai qu'on a tiré, finalement, on a été un peu plus loin que ce qu'on pensait dans ce dossier, parce qu'on a effectivement tirer ce fil, et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas ne pas aborder ce rapport au religieux, ce retour du religieux chez les jeunes, même si c'est pas facile d'avoir des chiffres, en fait, parce que donc en France on fait pas d'enquête.
Alors, par quoi ça s'illustre ?
Eh bien, on a été chercher des témoignages. Mmh. Ça s'illustre par une croyance plus affirmée, le fait de parler plus facilement de son appartenance religieuse, et aussi par une tolérance plus grande sur le fait de changer de religion, par exemple. Puisque donc nous, on a des témoignages de jeunes dans cet article. On a un jeune catholique qui avait des parents non pratiquants, qui s'est tourné vers une pratique plus régulière, plus rigoriste. Et puis, on a une jeune fille qui venait d'une famille chrétienne et qui s'est convertie à l'islam après avoir rencontré un jeune parce qu'elle a été séduite en fait par sa pratique.
Par la pratique. Vous parlez du carême par exemple, l'idée de performer en fait sa foi à travers des gestes visibles. C'est quand même vraiment dans comment vous avez parlé déséculariser, comment vous avez dit pardon
oui, ça pourrait être contre-sécularisation. Je préfère le mot recomposition parce que il n'y a pas de retour. C'est ce que vous disiez dans un de vos propos antérieurs. Il n'y a pas véritablement de retour du religieux si on considère que la forme du religieux, c'est celle qui existait avant la sécularisation. La sécularisation se prolonge, mais il y a des retours à des formes religieuses qui s'inscrivent précisément dans les subjectivations contemporaines.
Alors, il y a un endroit où j'aimerais bien retourner avec vous, si vous voulez bien, c'est l'école. Et on y est retourné avec un jeune homme, il s'appelle Emmanuel Danziger. Il a fait son service civique avec l'association Enquête. Je pense que vous la connaissez, Philippe Portier. Elle est présidée par Pierre Kahn. Enfin, il est président du conseil d'administration. Elle a été créée en 2010. Elle diffuse des pédagogies et des outils ludiques autour de la laïcité et du fait religieux, qui est un grand moyen aujourd'hui d'accrocher l'attention des enfants et des adolescents pour un rapport apaisé à ces sujets. Mais je ne sais pas qui a besoin d'un rapport apaisé, si c'est les jeunes ou le reste de la société. En tout cas, avec Emmanuel, que je tutoie dans le son, je suis désolée, il a 20 ans, alors c'était difficile pour moi de le vouvoyer. On a d'abord commencé par parler de l'école et de ce que lui avait appris.
La laïcité, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et ça m'a été transmis par le système éducatif. Par exemple, en cinquième, quelque chose comme ça, j'ai eu un exposé à faire où je devais présenter les différents types de laïcité dans le monde, les différences avec le système français, ce que ça voulait dire. Et je me souviens avoir fait une petite recherche, avoir regardé les différentes origines de la laïcité, comment c'était en Italie, dans un pays où il y avait un système religieux, machin. Enfin, il y avait plein de choses à découvrir. Et c'est quelque chose... auquel je me suis vraiment attaché à la laïcité française.
Enquête, c'est une association un peu particulière. Et donc, on y travaille aussi sur l'enseignement du fait religieux. Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, effectivement, il y a l'enseignement des faits religieux. Parce que c'est directement en fait, une prise de position sur ce que c'est que la laïcité. Parce qu'il y a une vision de la laïcité particulière qui vise à bannir la discussion autour des faits religieux, bannir les religions des espaces publics et éducatifs. Alors que à Enquête, il y a l'idée que c'est en parlant des faits religieux qu'on arrive à la laïcité. Et donc, dans l'association, il y a plusieurs outils pour parler aux enfants. Des mémories avec des symboles, des séances où on va travailler l'interprétation des récits religieux autour de tableaux, de vidéos qui ont été développées en partenariat avec des studios d'animation. On a eu plein d'outils en fait, qui sont nés petit à petit pour interagir avec les enfants et leur montrer à la fois la pluralité religieuse et surtout rouvrir le regard en fait, des enfants pour pas que ce soit centré uniquement sur les religions desquelles on a l'habitude de parler en France et par exemple qu'ils découvrent ce que c'est que l'hindouisme, le jainisme, le bouddhisme, plein d'autres religions, qu'il y a une diversité religieuse.
Est-ce que les élèves parlent de leur religion ? Toi, tu parles de ton rapport à la religion. Par exemple, moi, quand j'en parle à des élèves, je leur dis souvent, moi, j'ai pas de religion.
Les enfants parlent beaucoup de leur religion, de leurs croyances, de la manière dont ils voient certaines choses, de leurs pratiques, énormément. Moi, en tant que représentant, en fait, enfin, agent public quasiment, parce que je viens en tant qu'éducateur, je parle jamais de mes croyances ou de ma religion, donc je vais jamais dire j'ai pas de religion, je suis telle croyance, etc. Et donc, au lieu d'avoir une neutralité qui rejette les questions des enfants, on les embrasse et on dit « Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça ? Qu'est-ce que ça fait, en fait, moi, ce que je crois ? À ton avis, pourquoi est-ce que je peux pas te le dire ?» Et ils comprennent beaucoup de choses comme ça sur les influences des croyances, etc. Et les enfants, évidemment, on accueille complètement tout ce qu'ils ont à dire sur la religion, sur leurs croyances, tant que, évidemment, ça relève pas d'une violence faite à autrui, d'une discrimination. On accueille ce qu'eux, ils produisent comme réflexion autour de la religion.
Finalement, qu'est-ce que tu fais, ou qu'est-ce que vous faites à Enquête, que les enseignants ne peuvent pas faire ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, l'idée d'Enquête, au début, effectivement, c'était des interventions, des ateliers, où on allait vraiment faire des choses que les profs faisaient pas, les professionnels éducatifs faisaient pas. Mais le projet d'Enquête, c'est de faire changer ça, en général, dans l'éducation nationale française. Donc, il y a eu une énorme partie du projet qui s'est recentrée sur la formation de formateurs, la formation de profs, la formation de professionnels éducatifs et d'animateurs.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Laïcité, une affaire de génération, c'est le sujet d'être et savoir aujourd'hui. À l'occasion des 120 ans de la loi de séparation des Églises et de l'État, et pour reparler un petit peu des débats très cristallisés autour de l'école, à quelques jours de la journée de la laïcité, qui va donner lieu à quelques célébrations, peut-être dans les établissements, on voit que la religion, c'est comme le sexe. Pour en parler à l'école, on a besoin d'associations, de gens extérieurs qui viennent en parler et qui peuvent faire un peu avancer le dossier. Est-ce que c'est parce que c'est devenu trop sensible, Sébastien Ledoux ?
Alors, bon, j'ai un biais, évidemment, parce que comme j'ai enquêté sur les attentats, j'ai tendance à vous répondre par rapport à ce fait-là. C'est-à-dire, on a justement des questions religieuses qui sont, depuis une dizaine d'années, voire plus, hein, liées à des actes violents, qui ont évidemment eu des impacts considérables. Enfin, là, on a commémoré les 10 ans des attentats du 13 novembre. Et donc, ce sont des questions, en tout cas, de mon point de vue de chercheur, qui sont devenues de plus en plus sensibles en lien avec les demandes institutionnelles et notamment les minutes de silence qui ont été demandées aux élèves après janvier 2015, après le 13 novembre, après Samuel Paty, après Dominique Bernard, etc. Donc, parce que malheureusement, il y a aussi la multiplication de ces attentats terroristes. Et là-dessus, ces questions, elles sont sensibles dans la mesure où, bon, déjà, elles sont politisées, elles sont médiatisées, elles sont instrumentalisées politiquement. On en a un exemple très concret la semaine dernière avec une initiative parlementaire.
Attendez, expliquez aux auditeurs.
Bah, l'initiative parlementaire qui est de demander l'interdiction du port de signes religieux ostensibles dans l'espace public pour des mineurs. Voilà, donc il y a une initiative parlementaire qui date d'il y a une semaine. Tout ça construit, je dirais, une problématique qu'on appelle un problème public. C'est-à-dire, oui, le religieux est devenu, a été construit aussi en termes de problème public.
Le problème, c'est le religieux, ou est-ce que le problème, ce serait les jeunes ? Est-ce que ce qui a été construit, puisque vous parlez de construction, ce serait un problème des jeunes, de jeunes musulmans, pas du tout au hasard, avec la laïcité, et d'ailleurs... Qu'en disent les enquêtes ? Et est-ce qu'on a des enquêtes fiables ?
Alors, ce que je peux dire par rapport à mon enquête, déjà, premier élément, il faut parler quand même des processus de radicalisation, mais il faut que je développe un petit peu plus.
Allez-y.
Parce que les processus de radicalisation, c'est vrai que statistiquement, ça concerne des jeunes. La majeure partie des radicalisés qui commettent des attentats djihadistes sont des jeunes entre 15 et 30 ans, et les chiffres du ministère de l'Intérieur là-dessus montrent qu'ils sont de plus en plus jeunes. Donc on a un phénomène qui est réel. Là, c'est pas une construction pour le coup, hein, bien sûr. Hein. Il y a un phénomène réel de radicalisation. Alors, religieuse, là, le débat est ouvert justement sur cette explication, puisque vous savez qu'il y a eu différentes interprétations entre est-ce que ce sont des radicalités de personnes qui vivent dans des quartiers ségrégés et qui on va dire, se convertissent d'une manière un peu artificielle. Vous savez, tout le débat entre Olivier Roy, Gilles Kepel, etc., etc., au milieu des années 2010, en fait. Hein. Donc, si vous voulez, dans mon enquête, ce qu'on voit, c'est que vous avez, après, alors c'est toujours juste après les attentats, hein, vous avez des réactions de certains élèves qui se disent musulmans auprès des enseignants, à la fois en minorité et à la fois dans des représentations, je dirais, du monde très fermées. Alors, là, pour le coup, c'est un petit, j'apporterai un petit bémol par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire on a des fois des affirmations religieuses extrêmement fortes, mais dans des conceptions du monde extrêmement cloisonnées, fermées, avec des thèses complotistes, des thèses antisémites, des thèses anti-France, etc., etc. Ça, ça existait, c'est-à-dire que des enseignants étaient confrontés à ça après les attentats, que ce soit Charlie Hebdo, que ce soit Samuel Paty, dans ces affirmations religieuses-là, hein, et donc les élèves disant au nom de ma religion. Mais on a aussi d'autres, si vous voulez, on a aussi d'autres manifestations religieuses, puisqu'on parle de jeunes élèves musulmans, qui vont au contraire condamner les actes terroristes. Et ça, il me semble qu'on ne l'a pas non plus assez entendu après janvier 2015, qui condamnent les actes terroristes parce que justement, ils sont commis au nom de leur religion. Et là, il y a une réaction de colère de la part d'élèves musulmans, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, pour considérer qu'ils nous volent et ils nous captent, ils nous volent en fait notre religion, en créant un acte terroriste. Voilà. Donc,
Vous êtes plus sur les élèves. On rappelle que l'ouvrage de Philippe Portier et Charles Mercier parle plutôt des jeunes adultes. Hein.
Oui, 18-30 ans.
C'est pas complètement le même âge. Alors, peut-être on peut changer aussi, mais c'était bien de le préciser. Après, l'école dispose d'un indicateur. Donc, les atteintes à la laïcité, c'est très bizarre. Certains mois, il est médiatisé. Certaines fois, on n'entend pas trop parler. Mais en tout cas, on a des chiffres hyper précis. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur des chiffres du style 100... Ah, je vais vous dire. En septembre 2025... Allez, octobre. 109 signalements pour contestation d'enseignement. 72 pour provocation verbale, 71 signalements pour d'autres atteintes, 34 pour refus d'activité, on imagine le PS peut-être, la piscine, 58 pour revendication communautaire, etc. 64, donc c'est pas tant que ça par rapport aux contestations, pour port de signes et tenues. D'ailleurs, vous êtes partie un peu de ces signalements, Karine Hendricks.
Oui, parce qu'effectivement, c'était le début de notre dossier et de notre enquête. Moi, j'avais le chiffre de 4500 atteintes à la laïcité en 2024.
Oui, en octobre, c'était 500. D'ailleurs...
Oui, parce que moi, c'est un chiffre sur l'année, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que c'était en baisse, quand même. Et puis, on a interviewé Vanille Laborde, qui a consacré sa thèse en 2023 à l'étude de cet indicateur dans l'Académie d'Aix-Marseille, et qui nous explique que, selon elle, ces chiffres ne sont pas très fiables parce que, en fait, il y a une difficulté à définir réellement ce qu'est une atteinte à la laïcité.
Malgré tous ces détails, Sébastien Ledoux, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres et de cet indicateur ?
Il faut rappeler en fait le contexte de la création du dispositif atteinte à la laïcité. On est en 2017, c'est l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, et on est avec la création de ce dispositif dans une réorientation du ministère de l'Éducation nationale, avec un service en particulier, qui est le service Défense et Sécurité, qui va prendre en charge, qui existait auparavant, hein, qui s'occupait de la question des sécurités des personnels, des informations confidentielles, etc., et qui va prendre en charge à partir de 2017 ce que le ministère va appeler des atteintes à la laïcité, mais au travers d'une grille de lecture très particulière, qui est une grille de lecture sécuritaire. Ça, il me semble que c'est fondamental de comprendre ça pour aussi expliciter le malentendu qui s'est créé au fur et à mesure entre la jeunesse et une certaine politique
de
la laïcité.
Est-ce que ça ne protège pas aussi les enseignants de dire, voilà, si c'est une atteinte à la laïcité, on peut mettre les mots sur les choses, enfin sur ce qui se passe, plutôt que de négocier, voir avec l'élève pendant... Bon, non, ça, on refuse pratiquer telle activité au nom de sa religion, bim, atteinte à la laïcité, c'est clair, et peut-être pour l'enseignant, parfois plus simple.
Alors, c'est justement pas du tout clair. C'est-à-dire qu'en fait, comme effectivement vous l'avez dit, Vanilla Bird a réalisé un travail de, là-dessus sur la Canidex Marseille qui montre très bien que c'est une notion floue. Vous avez un travail de Claire Donnet qui a été réalisé, Ismail Ferhat à nouveau. D'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs qui pointent justement que cette notion d'atteinte à la laïcité mise en place à partir de 2017 n'est jamais définie. Jamais défini. Donc ça se repose sur qui ? Sur des acteurs locaux qui vont l'utiliser pour divers cas, situations qui parfois n'ont pas de lien avec la laïcité. Et c'est là où effectivement il y a encore un autre problème qui est venu à partir des politiques de laïcité et de cette appréhension de la laïcité au nom de la sécurité des individus et de la sécurité nationale. C'est qu'on a parfois des faits qui n'ont rien à voir avec la laïcité. Et donc, ça crée de la confusion plutôt que de la clarification sur, finalement, quels sont les principes de la laïcité, qui sont, par contre, assez bien compris par les élèves, pour le coup. C'est en tout cas les enquêtes qui le montrent.
Et ce qui est bien compris par les jeunes, semble-t-il, en vous lisant, Philippe Portier, c'est qu'il y a un usage, en fait, de la laïcité, de dire que les jeunes ne la respectent pas. C'est une parole politique que les jeunes sont assez habitués à entendre, qu'ils critiquent, de même que la surinterprétation des signes, parce qu'il y a aussi ça, par exemple, la longueur d'une jupe, etc.
Oui, alors évidemment, vous avez tout un discours qui va dans ce sens aujourd'hui, avec cette idée que les jeunes, par leur attitude tolérantiste, se tiendraient à distance d'une laïcité qui doit être considérée de plus en plus comme une laïcité de contrôle des expressions religieuses indisciplinées. Le problème, c'est de savoir à quoi on renvoie, à quoi l'on compare l'attitude des jeunes. Si on compare l'attitude des jeunes à l'idéologie qui s'est mise en place à partir des années 1990, de manière sans cesse plus pesante dans le débat public. Une laïcité qui est d'abord une laïcité de sécurité, une laïcité de surveillance, une laïcité d'identité nationale. Là, évidemment, les jeunes sont à extrême distance. Dans leur grande majorité, à extrême distance de cette conception-là de la laïcité qui connaît un certain nombre d'applications à travers une succession de législations qui, depuis 2004 jusqu'à la loi du 24 août 2021, sont venues transformer la laïcité initiale. Si en revanche, on compare l'attitude des jeunes à la laïcité originelle, celle dont nous allons célébrer le 120e anniversaire dans quelques jours, la loi du 9 décembre 1905. Cette loi, il n'est que de la lire, il n'est que de lire aussi l'exposé des motifs par lequel Aristide Briand la définissait. Cette loi est d'abord une loi libérale, une loi qui fait reposer son article premier sur cette idée que la République assure la liberté de conscience et garantit la liberté de culte. Autant d'éléments qui placent la jeunesse d'aujourd'hui dans une sorte de continuité avec ses premières intentions de la laïcité de la Troisième République, qui était, avec Aristide Briand et Jean Jaurès, une laïcité d'abord libérale. Donc, tout le problème, la question liée à la question que vous posez, c'est de savoir, en effet, quelle est l'instance de comparaison. S'agit-il de la loi de 1905 ou s'agit-il des dérivations qu'on a fait subir à cette loi depuis 2004 ?
Vos propos paraissent comme ça très sages et en même temps, aujourd'hui, est-ce que c'est pas situé politiquement que de s'exprimer de la sorte à l'heure où tant de politiques ne véhiculent pas cette philosophie de la laïcité, mais quelque chose et les jeunes le disent beaucoup, alors vous n'êtes pas jeune, mais vous avez l'air de penser un petit peu comme ça, le disent beaucoup, il y a un usage de communicationnel, je ne sais pas si ce mot existe, mais je l'utilise, du principe de laïcité.
Le problème, c'est qu'évidemment, il faut, sur ces questions de laïcité, avoir une sorte de distance objectivante. Il se trouve qu'il y a des travaux en la matière qui nous permettent de savoir quelles ont été les philosophies politiques qui ont porté la loi initiale de 1905, quelles sont les philosophies politiques aujourd'hui qui se traduisent, qui se reflètent dans les productions législatives ou réglementaires des années 2000-2025. Si l'on fait une analyse de ces philosophies politiques et des réalisations juridiques qui s'en sont suivies, on voit bien tout de même qu'il y a une évolution dans la laïcité française. Et vous avez un débat au début du siècle entre deux façons d'envisager la laïcité. Émile Combes, d'un côté...
Vous parlez du XXe siècle.
Début du XXe siècle, oui. 1905. Vous avez Émile Combes, d'un côté, qui défend l'idée d'une laïcité de contrôle. Et qui, dans le projet qu'il propose, ne fait même pas référence à la liberté de conscience. Et puis de l'autre, Aristide Briand, qui va défendre cette idée que le régime qu'il faut mettre en place est d'abord, je le cite, un régime libéral. On voit bien qu'il y a là toute une série de réflexions qui vont ensuite trouver à s'incarner dans la loi de 1905 et dans des lois subséquentes qui permettent aux expressions religieuses de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'affirmer librement dans l'espace public. Est-ce qu'il n'y a pas, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, moi, à votre micro, je ne prends pas position, est-ce qu'il n'y a pas précisément, depuis 2004 jusqu'à l'époque contemporaine, Sébastien Ledoux évoquait une initiative parlementaire de la semaine dernière, des éléments qui viennent remettre en question ce principe libéral. Alors, on peut tout à fait le comprendre dans l'espace politique. Notre but, à nous, n'est pas tellement de justifier telle ou telle position, c'est de marquer précisément les discontinuités de l'histoire. Et il y a des discontinuités de l'histoire liées probablement au contexte social, contexte politique, contexte économique, contexte religieux, dans lequel nous nous situons depuis les années 1990.
Il y aurait une tentation illibérale vis-à-vis de... La laïcité, ça tombe encore sur vous, Sébastien Le.
En tout cas, depuis les années... Je remonterai aux années 80. On a parlé de 89 Creil. Je remonte aux années 80 avec le retour, pas du religieux, mais du national.
84, la Marseillaise
Par exemple, mais 85, un hebdomadaire qui fait une couverture...
Alors là, je précise, la Marseillaise à l'école par le ministre Chevènement, ministre de l'Éducation.
Oui, tout à fait. Mais vous allez voir, c'est encore plus, suggestif. Une couverture d'un magazine, le Figaro Magazine, pour ne pas le nommer, qui met une statue de Marianne avec un voile musulman et qui titre « Serons-nous tous encore français dans 30 ans ?» C'était en 85. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on voit à la fois le thème du national menacé par une religion, la religion musulmane. Je crois qu'on n'est pas encore tout à fait sorti, il me semble, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette lecture-là, malheureusement.
Et du point de vue des différences entre générations, parce qu'on voit le dossier de l'école des parents et des éducateurs et Philippe Portier se rejoignent sur cette idée qu'il y a une différence entre générations. Est-ce que c'est votre lecture aussi? Parce que vous n'avez pas complètement répondu sur cette question. Et différence peut-être entre les générations de politique et entre les politiques et les jeunes?
Alors, entre les politiques et les jeunes, j'en ai un peu parlé dans la prise en charge par le politique de, justement, d'actions autour des atteintes de la laïcité. Entre les enseignants et les élèves, c'est survenu, effectivement, dans un contexte très éprouvant pour les enseignants au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, où, effectivement, voilà, ils ne s'attendaient absolument pas, en tout cas, un certain nombre d'entre eux ne s'attendaient pas à des réactions d'élèves dénoncer les caricatures de Charlie Hebdo au nom du respect de la religion. Donc ça, c'est vraiment un gap générationnel qui s'est ancré dans les classes à ce moment-là, de manière, d'une sorte de cristallisation d'un gap générationnel dans ces débats post-attentat Charlie Hebdo. Et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur cette appréhension du religieux en termes de respect des individualités, parce qu'on a parlé d'un processus de désécularisation, mais il faut parler d'un processus d'individualisation dans lequel, justement, les jeunes s'ancrent aujourd'hui.
Un processus libérale, comme l'a qualifié Philippe Portier, au nom de, enfin, selon les termes utilisés dans l'histoire politique. Hein. Merci beaucoup. Je conseille vivement la lecture de votre livre, Philippe Portier, publié aux presses de Sciences Po, coécrit avec Charles Mercier, Les jeunes et leur laïcité, ainsi que je conseille la lecture du dossier de la FNEP, Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs. Laïcité, en demande-t-on trop à l'école? Merci aussi à vous, Sébastien Ledoux. Merci à l'équipe d'être et savoir. Avril Ventura, François Richer. Et je voulais indiquer une pièce de théâtre sur la laïcité. Tiens. C'est notre collègue Franck Olivard et la compagnie du saut du tremplin qui la propose en partenariat avec l'université de Versailles-Saint-Quentin. Maître d'école, journal d'une famille d'instituteurs. Tiens. De 1768 à 1885. Quatre générations d'instituteurs de la même famille. Ce sera joué le 11 décembre à l'université. Je sais plus, en tout cas c'est à Guyancourt. Merci beaucoup.